19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. En ce début de semaine, nous sommes le lundi 7 octobre et vous êtes dans Time Sport. Tout le monde donc bien à l'écoute comme chaque soir de 19h à 20h dans votre quotidien sport. Avec vous, chers auditrices et auditeurs, dans cette émission, on le rappelle, vous pouvez réagir avec le numéro du standard, le 01 53 48 3000 et aussi sur la Twittosphère avec tous vos consultants qui m'accompagnent ce soir. Au menu de cette émission, on parlera longuement de la Ligue 1 Conforama avec le fameux Montpellier-Monaco. On verra aussi le match pour la première place, mais c'est Paris qui a tout raflé, la mise et surclasse son timide dauphin angevin Berić, qui fait craquer l'Olympique Lyonnais dans un derby assez décevant, sans oublier les Girondins qui s'offrent le derby de la Garonne ce week-end. C'est parti, go Time Sport.
Time Sport.
Et ce soir avec moi, pour m'accompagner, nous sommes en compagnie d'Alison Nkunku, qui nous fait le plaisir de nous accompagner. La ravissante Alison, comment ça va Alison?
Ça va très bien, merci.
Ouais, et le coach Tollé est de la partie ce soir, comment ça va le coach?
Impeccable.
Ouais, tranquillement, Hervé Dibé avec nous.
Salut
Hervé,
Bilal, ça va? Les auditeurs, ça va bien.
Et Simon Balachev, comment ça va Simon?
Buenas noches a todos, ça va très bien, écoute,
on est parti. Ah ben on est parti, ouais, comme Yanis, il est assez chaud, notre réalisateur, on y va.
Time Sport, le ras-le-bol.
Il y en a eu du ras-le-bol hein, du côté de la cité phocéenne, ça on peut le dire. Un OM sans idée à terre et qui coule directement du côté d'Amiens. 3 buts à 1, ça c'est le score. L'OM a sombré où il espérait justement se relancer, coach Tollé, après 3 matchs nuls. Les hommes d'André Villas-Boas manquent tout de même l'occasion de revenir au contact des équipes de tête. La révolution d'octobre n'a pas eu lieu à Amiens, mais quand et surtout comment pourrait-elle avoir lieu? On t'écoute.
Ouais, bah ce qui est inquiétant, c'est que tu te retrouves surtout à ce que l'OM ne gagne plus. On essaie de se rassurer, tu sais, après ces 3 victoires consécutives et ces matchs nuls. Mais non, là, depuis la victoire contre un Monaco malade, n'oublie pas que tu t'imposes contre Saint-Etienne qui était
moribond,
même malade aussi. Là, tu te dis surtout que l'effectif est juste et que t'as des joueurs qui sont pas au niveau et que peut-être que et qu'il y a du travail et qu'il ouais. y a du travail face à un quand un effectif limité. Tu
l'évolution, est-ce que tu peux la constater, toi qui as quand même vu pas mal de matchs depuis le début de la saison?
L'état d'esprit là, c'est clair qu'il y a
Villas-Boas.
Cette envie de bien faire. Maintenant, après, t'as une réalité du terrain qui est que lorsque tu as pas tes deux meilleurs leaders techniques, en l'occurrence Thauvin et Payet, même bon, t'avais on est en train de dire est-ce que Payet est mieux à gauche ou dans l'axe, même quand il est à gauche, en fait tu te rends compte qu'il a, de toute façon, il repique dans l'axe, il a une influence considérable sur le jeu
marseillais. Sur le terrain, quoi.
Sans ces deux joueurs-là, l'OM est clairement une équipe de mieux de tableau aujourd'hui. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, de Ligue 1.
Alors, Alison, Nkunku, on l'écoute.
C'est vrai, comme tu l'as dit, Claude, hein, déjà l'infirmerie est quasi pleine à l'OM.
Pas faux.
Donc, le pauvre André Villas-Boas compose avec ce qu'il peut, avec l'effectif qu'il a.
Il essaye, Alison, il essaye, a du mal, vraiment.
Il essaye de composer avec les joueurs qu'il a. Et contre Amiens, on a vu un OM, malgré le fait qu'ils aient quand même dominé, très peu inspiré, très peu décisif, très peu. L'envie, même malgré que l'envie soit là, on a vu des joueurs très peu inspirés. On a vu un petit
milieu.
OM.
Ils se sont fait bouffer.
C'est ouais. ça. On a vu un petit Marseille.
Ils ont perdu la bataille du million. On espérait que Sanson, Rongier et Maxime Lopez, que l'OM sorte l'épingle du jeu techniquement face à différence. Ils se sont fait clairement bouffer. Voilà. Enfin, ils se sont fait bouffer au pressing. Et puis après, derrière, il n'y a pas photo.
C'est alors, ça, et quasiment toutes les attaques de l'équipe d'Amiens faisaient mouche. Hein.
Ouais.
Dès qu'on attaquait un peu, ça y est, ça passait.
On parle de l'Olympique de Marseille tout de même. Simon, c'est assez grave.
Mais oui, grave. Mais après, c'est une phase, hein, ouais. On l'a rappelé. Alors en effet, 4 matchs sans victoire, ça commence à être une longue phase. Faudrait pas que ça dure beaucoup plus. Après, dans ces 4 matchs, il y a 3 nuls et une défaite. Dont un nul contre Montpellier, qui n'est pas une équipe mauvaise du tout en ce moment, qui marche même plutôt bien. Alors en effet, il y a l'infirmerie, il y a beaucoup d'absents. Moi, je suis pas encore inquiet. Faut pas acheter tout n'est pas encore à jeter. Il y a beaucoup d'absents et surtout le championnat est encore serré. Le championnat est encore serré. Là, une victoire de l'OM suffit à les repropulser très haut dans le classement. On l'a vu avec la victoire de Saint-Etienne qui passe de la dernière place à la 13e place. En ce moment, c'est encore vraiment... Voilà, on est au début du championnat. C'était la 6e journée, je crois.
9e journée.
9e journée, déjà.
Voilà. C'est que là, t'as rarement eu un écart peu important entre les...
Exactement. Par contre, là où il y a un gros problème à l'OM, c'est que depuis l'arrivée de Franck McCourt, on parle du fameux Champions Project.
Ouais, le président américain.
On ne le voit pas, c'est-à-dire que on peut constater que André Villas-Boas fait avec les moyens du bord, que voilà, il y a beaucoup d'absents, que c'est compliqué, on peut le constater, mais ça devrait pas être le problème de l'OM. L'OM devrait avoir une équipe en cas de grosse absence, une équipe à mettre sur le terrain qui puisse gagner contre Amiens et au moins faire jeu égal avec et arriver à se maintenir à une quatrième, cinquième place minimum quand c'est la dèche un peu, j'ai envie de dire, comme en ce moment. Et là, c'est pas le cas. Donc où sont, puisque c'est le game du football business actuel. Où sont les dollars de McCourt pour mettre en place le Champions Project?
Parce qu'il y en a qui le demandent. Il y en a qui se le demandent, justement. Oui, Hervé.
Alors, force est de constater que Marseille a la chance de voir ses deux concurrents directs, que sont Lyon et Monaco, être en déliquescence totale depuis plusieurs matchs. Les Marseillais ont la chance de pouvoir les distancier, de pouvoir s'échapper au classement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent des matchs ici et là. Marseille vient d'affronter successivement Montpellier, Dijon, Rennes et Amiens et ils prennent 3 points sur 12. Vous vous rendez compte? 3 points sur 12. À un moment donné, enfin je sais pas, faut pas déconner, tu peux pas t'annoncer, te proclamer être un candidat sérieux à l'Europe et prendre 3 points sur 12. Être autant inconstant.
On est d'accord, et les supporters aussi.
Être autant vulnérable.
C'est pour ça que Simon tout à l'heure parlait de... Il disait qu'il ne voyait pas d'urgence. Eh ben, si, quand même.
Il y a une urgence.
Il y a une urgence. On parle de Marseille, on parle d'un grand projet sportif.
Les nuls contre Montpellier et Rennes ne me choquent pas plus que ça.
Oui, mais bon.
Mais quand même.
C'est plus compliqué.
Sincèrement,
on parle de l'OM quand même.
On a un classement à l'heure actuelle en Ligue 1 très serré, justement. Tous les points sont bons à prendre. Et Marseille ne prend pas les points.
On parle de l'Olympique de Marseille. Ils se sont fait malmener en début de championnat contre Rennes à la maison. Ils ont payé 2-0.
Et tu fais bien de le rappeler.
Voilà, ils font un match désolant à la Beaujoire en deuxième journée contre Nantes, ils font 0-0. Je suis désolé. Aujourd'hui, Marseille ne fait plus peur. Tu te rends compte, ils vont à Amiens, ils vont à la Licorne, ils vont à Amiens, ils sont victimisés.
Je vais reformuler.
Je suis désolé.
Je vais reformuler
juste pour terminer. Il y a un film assez connu dans les années 80 qui s'appelait Y a-t-il un pilote dans l'avion? Quand je regarde l'Olympique de Marseille, quand je vois comment ce club est géré, comment ce club avance depuis quelques années, je me pose la question. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Juste à titre d'exemple. J'ai fait des recherches tout à l'heure avant de venir. Lors de la saison 2017-2018, Marseille comptait 17 points après 9 journées. La saison dernière, à la même époque, Marseille comptait 16 journées. Aujourd'hui,
16 points.
Oui, l'année dernière.
Ouais.
Et là, cette année, il compte 13 points. C'est-à-dire que Marseille a régressé. Et Marseille, contrairement aux deux saisons précédentes, Marseille ne joue pas l'Europa League. C'est-à-dire que Marseille est en train... même pas d'avancer, mais pire, il régresse en fait.
C'est vrai. Et tu fais bien de le rappeler,
juste,
Hervé.
Pour reformuler ce que j'ai dit, j'ai jamais dit, quand je dis qu'il n'y a pas de situation d'urgence, c'est en voyant l'état du club et de l'effectif à l'heure actuelle, avec les absents, avec Villas-Boas qui essaye de faire bon an mal an, de construire son équipe avec ce qu'il a. Mais en effet, là où je suis d'accord, et c'est ce que j'ai dit, c'est que ça ne devrait pas être le problème de l'OM, ça, de gérer ce genre de choses. Il devrait avoir l'effectif et le pouvoir sportif pour être au-dessus de tout ça. Après, quand je dis qu'il n'y a pas d'urgence, c'est qu'en effet, on constate aussi qu'il y a énormément d'absence, que Villas-Boas, il est nouveau à ce club et il est en train de construire son équipe. Il y a pas, c'est pas 4 défaites de rang. Voilà. Mais là où je suis d'accord, c'est que là où il y a urgence, mais c'est bien plus global, c'est sur les 4 dernières années au final, c'est que ça ne devrait pas être le problème de l'OM. Terminer, tu disais il n'y a pas de pilote dans l'avion. Le pilote pour moi, il y en a un, c'est Villas-Boas. Par contre, je me demande où est l'avion. Voilà.
Toi aussi.
Le coach Tolley. Les pots cassés des saisons précédentes. McCourt et Héros sont arrivés. Il y a quand même eu du mieux un moment. Faut pas oublier que il y a quand même eu une finale de Ligue Europa.
Oui, après, mais quand t'as dit ça,
il y a quand même eu une finale de Ligue Europa qui arrive très peu, surtout en France, que nous on en parle comme si on a l'habitude d'aller en finale de Coupe d'Europe. Mais après, derrière tout ça, il y a eu des moyens. Il y a eu des moyens de mieux gérer, d'avoir un effectif de meilleure qualité.
C'est vrai. C'est leur
sauf que ça a mal été géré et malheureusement, là aujourd'hui, tu payes les pots cassés des années Garcia. Même si il a fait cette saison là, tu parlais de la première saison 2017-2018 où il finit avec un nombre, je crois, de points record. Mais à cette époque, à cette saison-là, il y avait Lyon aussi qui avait été aussi au-dessus, etc. Tu payes quand même la mauvaise gestion et aujourd'hui, tu te retrouves à avoir ce projet où on te parle. Ah oui, maintenant, il faut investir sur la jeunesse. Non, non. T'as investi sur la jeunesse parce qu'en même temps, t'as plus les moyens.
C'est un choix par défaut.
Exactement. Ah,
oui. Je tiens à te rappeler que c'est Marseille qui a le plus l'habitude d'aller en finale. Hein,
de Coupe de Ligue.
Bien sûr.
Tu as dit le contraire.
Après, voilà, Marseille,
c'est. Moi, je suis le contraire.
Attends, je sais pas.
Il a pas dit les Marseillais.
Alison, on écoute justement Alison et on reviendra à Hervé et à Simon. Alison, Marseille.
A très bien résumé la situation. Ça fait des années que. Au sein de la direction de Marseille, c'est un peu du lard et du cochon. On ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas trop qui investit, qui n'investit pas. C'est assez brouillon. Et maintenant, ça se ressent sur le terrain. Finalement, les conséquences des décisions prises en amont se ressentent aujourd'hui. Donc malheureusement, Marseille aujourd'hui ressent et paye les pots cassés justement de ce qui s'est passé en amont.
Et puis, Bilal, pour avoir été un petit peu au Vélodrome, les supporters... clairement n'ont rien contre cette équipe, même à ma vie. T'as des supporters qui disent le problème c'est pas forcément Jordan à ma vie, c'est la direction qui est très mal investie. Comment que tu te retrouves par exemple sur le cas d'à ma vie d'avoir un latéral gauche qui est plus que très moyen pendant deux saisons et demie d'avoir
ce qui est dommage, c'est quoi? C'est que Marseille, c'est censé être une des places fortes de notre championnat.
Je suis d'accord avec toi.
À Marseille, il y a un public fervent qui ne demande qu'à s'enflammer derrière son équipe. Et aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est à l'image de son président, c'est-à-dire médiocre.
C'est bon.
Punchline.
Ne rigole pas.
Voilà, je pense qu'on a fait le.
Les supporters, ils demandent à ne plus distribuer des cookies ou des barres de céréales.
Ça concerne la diététique sportive, c'est très à la pointe.
Ça, c'est les supporters qui demandaient.
Non, mais on a fait le tour. On a assez bien résumé le problème. Et comme c'est très parlant quand tu parles des supporters, parce que les supporters, ils le voient, le groupe.
Bien sûr qu'ils le voient. Ils sont connaisseurs et supporters.
Ils comprennent très bien que. Les mecs se battent et il n'y a pas grand chose non plus à leur demander.
Exactement.
C'est pour ça que ça reste limité de ce point de vue-là. Mais en effet, encore une fois.
Mais après, dans cette ligue.
Où sont les grandes recrues de M. Zubizarreta, de M. Héros, c'est ça qui est compliqué.
Mais dans cette Ligue 1 qui est quand même relativement faible, parce que tu disais que l'OM a regressé, mais le championnat aussi.
Il y a un nivellement par le bas.
Clairement, tout reste possible. Malgré tout, tout reste possible.
Le podium ne te plaît pas, Nantes-Angers.
Tout à l'heure.
Moi, je suis content pour le FC Nantes. Tout à l'heure, vraiment, je suis content pour le FC Nantes pour Bourcuff, parce qu'il y a des joueurs
Hervé. Pour abonder dans le sens de Simon, il disait une donnée très vraie. Il y a 7 points entre Metz qui est lanterne rouge et Bordeaux qui est 4e. Donc c'est quand même assez incroyable.
C'est fou, hein. T'es au quart du championnat quand même.
Grave.
T'es pas à la 3e journée.
Mais justement, comment expliquer que même privé de Coupe d'Europe, on le rappelait avec toi Hervé, que cette équipe semble incapable quand même de se concentrer sur le principal challenge qu'elle est à relever, à savoir ce fameux championnat de Ligue 1 Conforama, pour vous?
Comme l'ont dit mes acolytes autour de la table, je pense que déjà c'est une question déjà de qualité d'effectif. Enfin, moi je l'ai dit mardi dernier.
Recrutement oblige sur le mercato hivernal.
Obligé. Mais après, est-ce que Marseille a les moyens de pouvoir acheter? Parce que moi, je suis désolé. Enfin, encore une fois, c'est pas pour.
Quel grand nom voudra venir à Marseille dans les temps actuels?
Aussi, c'est aussi une problématique à considérer. Après, encore une fois, comme je le disais la semaine dernière, il y a des recrutements qui interpellent. Enfin, te dire que tu dépenses 13 millions d'euros sur Valentin Rongier, tu vois, moi, ça, j'arrive toujours pas à comprendre. Comme le disait.
Ouais, sur le montant à Marseille, assez incroyable.
Comme le disait coach
sur tous les transferts.
Après, c'est tous les transferts qui sont comme ça actuellement.
Oui, mais est-ce que tu pouvais pas les mettre?
Parce que Higuain vaut 92 millions.
Tu compares Higuain.
On tire la sonnette d'alarme d'une certaine façon du côté de Marseille.
À Angers, un joueur d'Angers vaut 12 millions aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Non mais c'est la réalité du marché.
Je pense qu'il a beaucoup de talent commence seulement sa saison. Faut le laisser aussi démarrer.
Il démarre pas dans un espace. Est-ce que c'est vraiment Bilal, toi qui a une affinité pour le club?
Bien sûr.
Est-ce que Valentin Rongier, pour toi, c'est un joueur du standing de l'Olympique de Marseille, tu vois?
Ça peut.
Pour moi, il a du potentiel fort. Vraiment.
Non,
c'est trop sévère.
T'as beaucoup de joueurs à fort potentiel qui sont arrivés à Marseille. Marseille ouais. et qui sont montés en puissance. Tu sais que la plupart des joueurs, souvent, quand ils arrivent à Marseille, ils n'arrivent pas en star. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Ils arrivent et ça devient ensuite des joueurs
Ribéry,
importants.
Ribéry, quand il arrive en 2005.
Beaucoup de joueurs. Drogba, beaucoup de joueurs. Deschamps, quand il arrive, beaucoup de joueurs.
C'est l'attaquant pour suppléer Mido. À l'époque.
Mais à fort potentiel. Il a, clairement, il a le potentiel. Franchement, tactiquement, en termes d'intelligence, faut qu'il s'intègre aussi à un effectif qui est aujourd'hui décimé. Oui. Et pour répondre à ta question, t'as un effectif qui est, comme tu l'as dit, qui est juste. Quand t'as Camara et Alvaro.
Qui est limité.
Quand tu as ta charnière centrale type. Quand tu as ton meneur
quand
de jeu, quand
tu as,
quand tu as ta charnière centrale, quand tu as ton meneur de jeu, quand tu as ton meilleur joueur, et quand je t'appelle l'OM avec un effectif limité, enfin il y a un moment.
Simon a tout dit. Même avec tous ces paramètres, Marseille devrait au moins être dans les 5 premiers.
T'as pas les joueurs qu'il faut de toute façon pour le moment.
C'est ça. T'as pas ce problème.
Actuellement, Marseille n'a pas les joueurs. Ils n'ont pas les joueurs.
Ils ont pas l'effectif pour
leurs joueurs. Le 11 et le turnover. Il n'y a pas à Marseille à l'heure actuelle, donc on ne peut pas faire mieux.
On regardera de près l'Olympique de Marseille, son effectif, et aussi Villas-Boas, son entraîneur. On va passer justement à d'autres clubs de cette Ligue 1 Conforama après ce week-end football, avec les clubs de Montpellier et Monaco. Time Sport. Et oui, après avoir enchaîné deux succès, Monaco, Le Rocher est retombé dans ses travers à Montpellier. 3-1 ce samedi soir lors de la 9e journée, on le rappelle, de cette Ligue 1 Conforama. Comment expliquer, Simon, qu'après leur victoire contre Nice et aussi le Stade de Brest, les Monégasques, qui semblaient avoir enclenché, d'une certaine manière, un cercle vertueux, puissent se liquéfier de cette manière, quoi?
Est-ce que c'est Monaco qui a trébuché ou est-ce que c'est Montpellier qui monte très bien? Montpellier, l'année dernière, ils font une très bonne saison. L'effectif n'a pas énormément bougé. Ils ont perdu Ruben Aguilar qui est parti à Monaco d'ailleurs. Mais sinon, voilà, le trio d'attaque est toujours là. Mollet, Delors, Laborde. Ils ont toujours Pedro Mendes, Hilton. Enfin voilà, toute la clique. Ils ont fait un super recrutement au Cajou. Ouais. Geronimo Rulli. Ils sont allés chercher en Espagne. Ça, c'est une super bonne pioche pour remplacer Lecomte qui est parti à Monaco aussi d'ailleurs.
Ouais.
C'est assez ironique. Moi, Monaco est encore convalescent. Hein. Ils viennent de vivre une saison dernière un peu traumatique. Ils se relèvent petit à petit. Et eux aussi ont eu des problèmes d'infirmerie. Faut leur laisser un petit peu de temps, je pense. Ils sont, pour moi, c'est un malade encore convalescent. Je suis gentil aujourd'hui. Je suis d'humeur gentille.
T'es très gentil. C'est bien. Très gentil.
C'est cool. Voilà. Hervé, il n'est pas.
Non, mais
je suis toujours gentil.
Mais voilà. Monaco est encore convalescent. C'est pareil. Je tirerai pas cette sonnette d'alarme pour cette défaite face à un Montpellier qui tourne très bien. Der Zakarian fait du très très bon travail avec Montpellier.
Ouais, Hervé. Justement, la réaction.
Je rejoins
Simon.
Je pense que cette défaite, c'est le signe que Monaco est encore convalescent. Après, au-delà de la défaite, moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est le manque de solidité défensive, en fait. Pourtant, Monaco se présentait en 3-5-2. Ce qui faisait qu'en phase défensive, ils étaient, en fait, dans une sorte de 5-3-2 avec Gelson Martins en piston droit. Un peu laxiste sur le remplacement, mais. Voilà, Jerzy m'avait vraiment voulu renforcer la défense monégasque. Et même comme cela, on a vu de sacrés boulevards dans le dos des défenseurs monégasques, notamment sur le premier but de Mollet et sur le troisième but de Delors à l'heure de jeu. Après, voilà, comme le disait Simon, je pense qu'il faut encore laisser du temps à cette équipe. Il y a voilà, beaucoup de nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Moi, je reste persuadé que Monaco finira dans le top 10.
On espère en tout cas.
À la fin du championnat.
On verra bien. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Une courte pause avant de revenir avec toute l'équipe de Time Sport. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie d'Alison Nkunku, de Hervé Dibi, Simon Balachef et le coach Tolé pour m'accompagner. Un petit clin d'œil à toute l'équipe de Time Sport, notamment au rédacteur chef Mamadou Lamine Mané, Sokaina, Jouba Weshen et Yasmine, sans oublier Farid Rouas. On parlait de Montpellier, des Montpelliérains et cette magnifique victoire face aux Monégasques. On va donner la parole à Alison justement pour avoir son ressenti à cette défaite de l'AS Monaco.
On a un Monaco qui a bien entamé la rencontre, qui a quand même subtilisé le ballon dans un premier temps, mais qui est très très vite retombé dans ses travers. Hein, un Monaco insipide, comme on l'a connu ces derniers temps, qui a quand même encaissé 3 buts en 25 minutes. Une défense très friable, un Monaco très très friable. Et en face de ça, on a un Montpellier qui tourne bien justement ces derniers temps, comme on l'a évoqué ici. Donc c'est la question qu'on s'était posée. Est-ce que c'est Monaco qui a sombré ou Montpellier justement qui a surclassé Monaco ? C'est une question qu'on peut se poser.
L'achat de 10 joueurs à vocation offensive est-il cohérent, ces achats, justement ?
Bah oui.
Simon, ouais ?
Bah pour oui, toi. Attends, ça, on peut pas dire
Mais j'aurais pas dû la poser à Simon, celle-là. Lui qui aime le beau jeu, le Diogo Bonita. Non, mais il fallait la poser, justement, au jeu médiocre de l'Olympique de Marseille, en la personne de Hervé.
Il a pas aimé, hein.
Ça m'est resté. Ça passe pas, il est fâché. Hervé, alors.
Slimani, Ben Yedder, Golovin.
Magnifique joueur.
Ça s'éclater, ça marche bien, non ? Là où le bas blesse un petit peu avec Monaco, en effet, là, c'est défensivement. C'est vrai que ces buts, ils sont arrivés en 25 minutes. Parfois, ça arrive aussi qu'une équipe craque comme ça, un trou noir de 25 minutes, et dans le monde pro, bah, t'en encaisses 3, quoi, voilà. Après, c'est sûr qu'en termes de rapidité, Glick, Maripán, que je connais un peu avec le Chili, bon, bah, c'est pas des odes au sprint. Donc, c'est des joueurs plus de placement, donc peut-être qu'il faudrait une sentinelle qui sache rattraper les lièvres.
Après, je pense que...
Hervé, on termine avec toi.
Ce dont Monaco a besoin, je pense que c'est d'enchaîner les résultats afin de briser la spirale négative et de retrouver confiance, en fait. Voilà.
Le coach Tolé, justement, pour toi, Monaco, équipe de Montpellier.
Oui, j'ai eu ce match. À partir du moment où dans le jeu sans ballon, tu ne fais pas les efforts, tu ne peux pas gagner un match, et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que Monaco a oublié de défendre ensemble dans le repli défensif. Donc c'est pas, là, on ne parle pas de la défense. Moi, je te parle de Fabregas, de tout le milieu de terrain, etc. Quand tu n'as pas le bloc, fais les efforts. Bah, c'est terminé face à une équipe de Montpellier qui est une des équipes les mieux organisées de notre championnat tactiquement depuis 2-3 saisons. Et je te rejoins, Derzakarian, on n'en parle quasiment pas, mais ça fait c'est costaud. Tactiquement, comme entraîneur, il fait un gros travail avec les joueurs qu'il a. Franchement,
t'as raison. La défense ça a été compliqué, mais même le milieu de terrain.
Ah oui, bien sûr, il revenait pas.
D'autres matchs, messieurs, dames, d'autres matchs de cette 9e journée de Ligue 1 Conforama.
Time Sport, la victoire.
Et oui, la victoire, quand même. Il faut parler de notre magnifique leader, on l'espère, qui remportera cette fameuse coupe aux grandes oreilles, ou pourquoi pas Lille, ou encore les Lyonnais. Mais oui, je veux bien sûr parler du Paris Saint-Germain qui rencontrait Angers. Et oui, le coach Tolé, match pour la première place, Paris qui rafle. Donc la mise sur classe, sont timides. Dauphin Angers-20. Et oui, 4-2-0, Simon, malgré cette large victoire. Les troupes de Thomas Tuchel n'auraient-elles pas pu se montrer meilleures, notamment avant la pause, selon vous, messieurs, dames ?
Je pense pas, je pense que...
C'est le PSG en Ligue 1, on commence à être habitué, quoi. Ils roulent leur bosse, franchement, ça survole, et puis quand ça survole pas, ça se tout saute, mais enfin, on se fait pas de bile à la fin, hein. C'est pas cette défaite contre Reims, c'était laquelle, celle d'avant ? Rennes. Qui vont vraiment les faire trébucher, franchement, on voit difficilement, on commence à s'habituer. Non, et puis Angers, depuis le début de la saison, ils font une très très bonne, donc un très bon début de saison. Hein. Ils sont encore sur le podium, même avec cette défaite. Mm-hmm. Enfin, c'est à l'extérieur, c'est pas mal de valises, hein, Angers. Hein. C'est à Lyon, c'est 6-0. À Lille, c'est 4 ou 5. Là, encore 4. Puis je crois qu'il y en a une qui traîne aussi, une autre valise contre un autre club à l'extérieur. Non, Angers se déplace très très mal. Donc, avec tout le bon travail aussi que fait Stéphane Moulin. Le déplacement au Parc des Princes, ouais, non, ça s'avérait compliqué quoi qu'il arrive.
On l'écoute.
Moi, enfin,
Hervé,
après le match de mardi, enfin, on pouvait penser que les joueurs de Paris seraient un peu en pleine décompression, qu'ils seraient un peu démobilisés, et ça n'a pas été le cas. En fait, ça a été tout le contraire. Mais j'ai vu une équipe, pardon, appliquée, disciplinée, qui a su se rendre le match facile face à une courageuse équipe d'Angers qui n'a pas démérité et qui a eu deux grosses occasions en première mi-temps. Par l'intermédiaire de Alioui et Santa Maria. Ce que je retiens de cette rencontre, personnellement, c'est le retour en grâce de Kimpembe, qui revient petit à petit dans les petits papiers de Thomas Tuchel, après un début de saison assez anonyme. C'est la prestation XXL de Ganagay, qui confirme jour après jour qu'il est l'un des tauliers de cette équipe. Je retiens également l'opportunisme de Mauro Icardi et le match plein de Paulo Sarabia qui a été récompensé.
Ça a été compliqué, hein, au début.
Il a été récompensé.
Du mal à se mettre en jambe.
qui a été récompensé avec un but et une passe décisive. Après, pour terminer, j'aimerais tirer mon chapeau.
Alors à qui ?
À l'équipe d'Angers, ouais. Une équipe qui n'a pas hésité à produire du jeu,
ouais.
à prendre des risques, qui ne s'est pas présenté au Parc comme une victime expiatoire, mais qui a cherché à jouer d'égal à égal avec le Paris Saint-Germain. Et ça nous change des équipes qui montent le bus et ouais, qui courbent les chines et qui montent les barbelés au Parc. Donc personnellement, félicitations au SCO et félicitations à Stéphane Moulin.
Mais est-ce qu'on va s'amuser à féliciter toutes les équipes qui prennent 5-0 au Parc en
disant au moins ils viennent avec des intentions. Moi, je suis parti voir Paris-Strasbourg il y a un peu moins d'un mois. Et je suis désolé, quand tu vois le match que Strasbourg a fait, qui est venu avec une tactique super frileuse, super passive.
Ouais, mais bon,
justement, les joueurs ont dit qu'ils étaient venus avec leurs moyens.
Ouais, ouais.
Ils n'étaient pas timorés sur le terrain et ils ont fait ce qu'ils ont pu.
Ah, mais je suis d'accord, mais tu prends le match de Strasbourg. Ok, certes, ils prennent un but à la 90e. Ouais. Ah, mais s'ils commencent à jouer, ils en prennent 5. Alors après, moi, je veux bien.
Au bout d'un moment, les coachs ont des impératifs de prendre des points.
Je sais pas si c'est Kamel qui disait ça lundi dernier, mais c'est pas une honte de perdre contre Paris. Tu sais déjà que, entre guillemets, sur le long terme, à la longue, sur le championnat, tu sais que tu seras dans tous les cas derrière eux. Donc que tu prennes 1-0
ou
4-0 derrière face à Paris, voilà, c'est pas non plus la mort. Tu vois ce que je veux dire?
Mentalement, c'est très dur de prendre
Paris et perdre 4-0 contre Paris, que tu sois Amiens ou n'importe qui, c'est pas pareil quand même.
Ce que je suis en train de dire, c'est quand tu joues contre Paris, t'as rien à perdre. C'est pas comme quand tu joues contre un concurrent direct.
T'as rien à perdre, mais dans ce cas-là, t'y vas pas. Si c'est pour que le match soit déjà perdu avant qu'il soit joué, tu n'y vas pas.
En fait, je crois
qu'il faut y aller quand même avec des intentions.
En fait, t'as pas compris ce que je voulais dire.
J'ai très bien compris.
En fait, moi, ce que je voulais féliciter Stéphane Moulin, c'est que contrairement à beaucoup de ses confrères, il s'est montré audacieux. Il s'est montré audacieux où beaucoup de ses collègues se montrent frileux. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'est pas venu en disant on va jouer en 5-4-1, on va garer le bus, on va monter les barbelés et on va attendre que sur un malentendu, peut-être, on va marquer un but.
Mais je veux dire un truc, alors 5-4-1, 4-4-2, ça ne veut rien dire. Désolé, mais c'est une question d'animation, de comportement, en fonction de ce que demande l'entraîneur. Après, j'entends ce que tu dis. C'est vrai que tu viens au Parc, t'as envie d'avoir deux équipes qui jouent, etc. Les équipes n'ont pas le niveau du Paris Saint-Germain pour jouer. Donc, si elles commencent toutes à jouer, elles en prennent 7, 8, 9 et on dira à chaque fois, ah bah, ils ont essayé de jouer, mais ils en prennent 7, 8. Donc, il y a un moment, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre sens, on peut quand même comprendre des équipes qui essaient de se dire, bon bah, on va essayer quand même de jouer crânant notre chance. Et la meilleure.
C'est ça que j'ai apprécié.
La meilleure solution pour des équipes.
C'est ce qu'a dit Claude. Ils sont venus, ils ont joué avec leurs moyens. Vas-y, on a déjà perdu d'avance.
Mais jouer défensif ne veut pas dire forcément que tu as perdu d'avance. Jouer défensif veut dire aussi que tu as envie de repousser au maximum pour, pourquoi pas, sur une contre-attaque, sur un coup de pied arrêté, faire la différence.
Oui, je n'ai pas dit le contraire. Mais en tout cas,
limiter l'hémorragie.
Qu'est-ce qu'a fait Reims il y a 15 jours?
Sur une contre-attaque, sur un corner, sur peut-être un pénalty provoqué, sur quelque chose, une action, un fait de jeu, mettre un but et refermer ensuite derrière.
On est tous en train de dire la même chose, sauf avec des mots différents. Moi, ce que j'ai apprécié chez le SCO le SCO d'Angers, c'est quoi? C'est l'ambition avec laquelle ils sont venus au Parc. C'est ça qui m'a plu, en fait. Tout simplement.
On va passer justement. Oui, bravo Angers, bravo Paris Saint-Germain qui reste quand même le leader de ce championnat qui est la Ligue 1 Conforama. Oui, Simon, rapidement avant de passer au derby.
Juste à parler de Santa Maria, je tenais juste à mettre une petite lumière sur ce joueur-là qui est avec Angers depuis qu'ils sont revenus à l'élite, qui n'a que 23 ans et qui tient là-bas comme milieu de terrain, ce gamin. C'est très très bon. Il va partir à un moment. Ouais.
Allez, place au vrai derby, le 119e de ce championnat français de Ligue 1 Conforama.
Time Sport. Le duel, le duel,
le duel. Ah oui, tant de choses à dire là. Là vraiment c'est un gros duel. La bande-annonce de cette rencontre aurait pu défiler avec le sous-titre, n'est-ce pas Simon ? Malheur aux perdants, tant la situation sportive des deux protagonistes était alarmante, on peut le rappeler, à l'entame de ce derby, dont la seule certitude, Claude, c'était était conscrit dans son incertitude. L'épilogue, Berich, il a fait craquer, lui tout seul, si je peux me permettre, non ? Lyon dans un derby décevant, pour tout dire, en bois. Selon certains tweetos. Justement, une fois cela dit, alors que l'on aurait pu s'attendre à une partie enlevée, pleine de rebondissements, n'a-t-on pas de multiples raisons d'être déçu
de ce fameux derby opposant Saint-Étienne à l'Olympique Lyonnais. Simon.
On a eu une première mi-temps très insipide. Non, globalement, on a eu une première mi-temps insipide et en deuxième mi-temps, Saint-Étienne a commencé à plus pousser et s'est créé plusieurs occasions. Globalement, c'était un match pour le coup relativement médiocre. Il y a eu en effet plus
le stade,
de
le chaudron n'était pas plein.
Non, le chaudron ne m'était pas plein déjà, mais il s'est fait entendre. Il y a encore eu de très beaux tifos.
Comme d'habitude, Saint-Étienne.
Pas de soucis, je sais pas ce qui s'était passé à Saint-Étienne. Ils avaient d'autres choses à faire aujourd'hui. Enfin, hier soir. Non, mais c'est une partie, un duel, un derby médiocre du point de vue du jeu avec un Saint-Étienne. Bon, il n'y a pas grand-chose à tirer, en fait, à part l'honneur. Il n'y a pas grand-chose à tirer pour Saint-Étienne de cette victoire.
Lors de ce match, c'est pas faux.
Mentalement, si, c'est important. Moralement, c'est important. Puel venait d'arriver, c'est les mêmes joueurs. C'est,
l'homme qui tombe à pic, peut-être.
C'est très neuf, tout ça. Donc bon, tant mieux pour Saint-Étienne, mais il n'y a pas grand-chose à tirer. Par contre, du côté de l'Olympique Lyonnais, ils ont réussi à se mettre en dessous de ce Saint-Étienne.
Ça va mal.
Ils ont réussi à se mettre en dessous de ce Saint-Étienne très compliqué, qui joue de manière très compliquée. Donc, ça commence à être très compliqué pour Lyon et Sylvinho.
Hervé, on reviendra.
On a vu, comme le disait très justement Simon, un match d'une piètre qualité. Mais après, est-ce que c'est vraiment si surprenant que cela? On avait d'un côté la lanterne rouge, Saint-Étienne, contre Lyon qui est 13e. Moi, j'ai pas eu l'impression de regarder un match de Ligue 1 du dimanche soir. J'ai eu l'impression de regarder un 16e de finale de Coupe de la Ligue tout pourri. Voilà, du mois de novembre. On a eu un match médiocre, comme le laissait sous-entendre Simon. C'était assez décevant.
Alisson, décevant pour certains. Pour toi aussi, match.
C'est un match très décevant.
Tu t'attendais à mieux peut-être.
L'affiche, on s'attendait à mieux. On a deux clubs qui sont dans une situation un peu compliquée. On a Saint-Étienne qui a été mauvais et Lyon qui a été encore plus mauvais. Alors Lyon maintenant se trouve dans une situation compliquée, comme je disais tout à l'heure. À Lyon, on peut tirer la sonnette d'alarme, là, clairement. Je pense que dans les prochains jours, il va se passer quelque chose. Jean-Michel Aulas, qui tire un peu la tête et qui revient un peu à faire des déclarations un peu houleuses, et qui dit que c'est Sylvinho qui doit prendre les bonnes décisions et qu'il doit gérer ses hommes. Donc, je pense que dans les prochains jours, à Lyon, ça va bouger, il va se passer des choses.
Le coach Tolère, on l'écoute.
Moi, je vous trouve sévère sur... Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu une grosse qualité de jeu et on a vu, la note n'a pas été fabuleuse. On attend un spectacle extraordinaire. Après, tu as affaire à la base des bonnes équipes, surtout Lyon, du championnat, mais avec des joueurs qui ne sont pas en confiance et tu te retrouves dans un derby. On sait ce que c'est qu'un derby, surtout en France. On n'a pas souvent l'habitude de voir des gros, gros matchs et souvent l'enjeu prend le dessus vraiment sur... l'enjeu prend le dessus sur le jeu. Maintenant, ce qu'on peut en tirer, c'est que tu bats quand même Lyon. Simon, ça fait quand même du bien.
Mentalement, moralement, c'est très important. C'est du point de vue du jeu et des choix tactiques. Clairement. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à en tirer.
Moi, j'ai quand même vu, même s'il n'y a pas eu de beaux jeux, j'ai quand même vu de l'agressivité dans le bon sens du terme, de l'engagement, de l'envie. Faut déjà commencer par là. J'ai vu, une évolution tactique de la part de Claude Puel, qui avait pour objectif d'abord de d'étouffer le milieu de terrain lyonnais, chose qui a été plutôt réussi. On commence déjà par là. Maintenant, oui, du côté Saint-Étienne, faut voir. Maintenant, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de travail. Du côté de Lyon, ça fait belle lurette qu'on les a pas vus à ce stade-là. Je crois que depuis la saison 95-96.
Il y a eu des débuts de saison complices qui est sous Puel, justement, il me semble.
Mais 9e journée comme ça.
Je crois qu'en 2011, saison 2010-2011 de Puel avait été compliquée avant une.
Pour revenir sur le match d'hier, pour moi, la meilleure action de ce match, elle n'est pas sur le terrain, mais elle est hors terrain. C'est la déclaration de Jean-Michel Aulas qui dit au sujet de Claude Puel. J'espère qu'il est pas venu à Saint-Étienne pour nous battre, parce que sinon ils vont être déçus. Pour moi, c'est la meilleure action de ce match. Voilà.
On va marquer d'une courte pause cette fois-ci, la dernière avant la fin de cette émission. On est ensemble jusqu'à 20h. Vous restez avec nous. D'autres infos, notamment autre que la Ligue 1, Conforama sera donnée dans cette émission. On rappelle aussi que la qualification des Bleus pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby, après leur petite victoire, justement, 23-21 face aux îles Tonga, ils rencontreront l'Angleterre. Là, c'est un autre cadeau de la planète rugby, qualifié pour les quarts de finale dans un match qui attribuera justement la première place
hein, du groupe. Mac Maignan aussi remplace numériquement Hugo Lloris, hein, ça faut le rappeler, lourdement blessé au bras gauche, ouais, lors de la défaite de Tottenham contre Brighton ce samedi chez nos Bleus. Et oui, nos Bleus pour rencontrer alors les Turcs, c'est ça, la Turquie.
Et l'Islande.
Et aussi l'Islande. Les Vikings islandais, ouais. C'est ça, la Turquie au Stade de France et l'Islande du côté de Reykjavik. Bon, restez avec nous et on revient rapidement.
Time Sport revient dans un instant. Beber FM, 19h-20h, Time Sport, avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beur FM, le 19h-20h, c'est la plage horaire de Time Sport, comme chaque jour, du lundi au vendredi. On le rappelle, on vous fait remporter de magnifiques livres de sport sur la twittosphère, notamment sur le compte officiel de l'émission Time Sport, mais aussi sur la fanpage, sans oublier le site internet de beurfm.net. N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter en voiture, en métro et même à travers le monde avec les applications sur votre téléphone portable à télécharger. En compagnie d'Alison Nkunku, de Simon Balachef, je le rappelle, de Coach Tollé et sans oublier Hervé Dibi, on en a parlé de ce magnifique, ouais quand même, parce que ça reste une grande affiche du championnat de Ligue 1 Conforama, il faut la survendre parce que nous aimons le football français et qui opposait Saint-Etienne à Lyon. Ça le fait sourire, on ne sait pas pourquoi, mais le Coach Tollé, justement, bilan forcément contrasté avec Claude Puel, quand même l'homme qui tombe à pic et qui s'offre une petite bouffée d'oxygène, si je peux me permettre.
Ah bah ça lui permet de, là, de travailler sereinement. Il tenait absolument à être lors de cette rencontre, d'être sur le banc. On sait qu'il a quitté l'Olympique Lyonnais avec des conflits, notamment, exactement. Donc voilà, ça. Là où il a été bon, justement, pour moi, même si on peut regretter de ne pas avoir peut-être titularisé Berić au départ, de mettre des joueurs comme Denis, comme Boudbouz, ça le permet de concerner tout le monde. Dans un derby, même si le gars est moyen, etc. Là, les gars se disent, ok, là va falloir se montrer à certains sénateurs
que la place n'est pas forcément acquise.
Exactement.
Monsieur Wabi Kazri était quand même en délicatesse avec son jeu de feu follet ces derniers temps. Peut-être qu'il avait besoin d'une remise, voilà, pas une mise à pied, là j'exagère, mais voilà, d'un petit,
remise
un
en
petit
question,
signe, voilà,
bien sûr.
Signe comme ça pour lui montrer que tout n'est pas acquis pour lui à Saint-Etienne. Je pense que oui, être sur le banc un jour de derby, c'est pas rien. C'est pas rien.
Ça, il a même déclaré, hein, il a dit que son objectif aussi était que tous les joueurs se sentent concernés, que ce soit les joueurs qui jouaient, qui étaient titulaires tout le temps, ou les joueurs qui avaient beaucoup moins de temps de jeu à l'accoutumée. Donc il a réussi déjà dans un premier temps. Après, il a eu peut-être de la chance, certains diront. Mais il a réussi à fédérer, en tout cas, à rassembler tout son effectif.
Hervé, on t'écoute, toi, concernant ce match et ces hommes aussi de Silvinho, le duo brésilien du côté de la région Rhône-Alpes et plus précisément de Lyon.
Enfin, moi j'ai l'impression que les joueurs ont du mal à assimiler le message de Silvinho. En
ouais.
fait. C'est l'impression que j'ai. Je vois un Silvinho assez groggy, abasourdi, un peu à court de solutions. Et je pense que pour Silvinho, je dirais pas qu'il va sauter prochainement, mais l'étau se resserre.
Et moi, ça me fait penser à Oscar. Ouais. Oscar Garcia, justement, la situation me paraît à peu près similaire. J'ai l'impression, en tout cas sur la façon dont ça se passe, mm-hmm. j'ai l'impression de voir la même chose. Un entraîneur qui est arrivé avec des grosses ambitions personnelles, avec notamment du jeu, voilà, des tactiques de jeu prônées, un peu particulières, et qui s'étiole petit à petit pour arriver dans un mutisme presque total. Et en effet, on a l'impression que là, il ne sait plus quoi faire, quoi. Il regarde son navire sombrer et il ne sait plus quoi faire. On a l'impression de voir Oscar Garcia, justement, dans le derby, il y a deux ans, on perd 5-0.
C'est ça. Hein.
Et Oscar Garcia, voilà.
Qui montre son
Oscar
maillot.
Garcia regardait son équipe qui partait en déconfiture et il ne savait plus quoi faire. Pareil, le message ne passait pas.
Alors, on parle de Silvinho, mais je ne sais pas si vous avez vu ce matin, Olas met la pression sur Juninho. Et lui dit, voilà, c'est à lui de prendre ses responsabilités, etc.
Parce que Juninho, c'était l'homme de Juninho, c'est lui qui l'a choisi.
Exactement. Exactement, pourquoi il a choisi parce que notamment des entraîneurs étaient en pôle pour signer à l'Olympique Lyonnais. On pense à notamment Sabri Lamouchi qui était proche du club des Gones et Juninho a dit voilà, enfin moi j'ai mon gars Silvinho, ça va faire l'affaire, et là il le met face à sa responsabilité. Donc je crois qu'il y a une réunion qui devait se tenir aujourd'hui et demain.
C'est aujourd'hui
et demain, voilà, il y a deux réunions qui étaient prévues. Trêve internationale, ça va bouger. Il faut que ça bouge de toute façon.
Allez, on passe à la dernière rubrique de cette émission qui est Time Sport.
Time Sport, le mode pressing.
Là aussi, ça a bougé. Sur le Toulouse-Bordeaux de ce week-end, les Girondins s'offrent tout de même le derby de la Garonne sur la pelouse du Stadium dans la Ville Rose. Auteur d'un début de saison convaincant, hormis le non-match contre le PSG, les Bordelais sont-ils un prétendant sérieux au top 5? Alisson, concernant, non, elle en pense. Non, elle ne croit pas le Bordeaux.
Je pense que ouais.
Elle
est plutôt Côte-du-Rhône.
Ouais. Côte de Provence aussi. Hervé, il a tant de choses à dire.
Bordeaux est 4ème du championnat, certes, avec 15 points pris sur 27 possibles. Alors oui, ils font un bon début de championnat, sans faire de bruit. Je pense que peu d'observateurs les attendaient à ce niveau-là du championnat. Après, est-ce qu'il faut y voir une patte Paulo Sousa, je pense que c'est un peu prématuré. Je pense qu'il faut laisser encore un peu de temps, voir peut-être
quand
d'ici
même,
la trêve.
Il y a 10 journées de passé, ça roule bien quand même.
Ouais, mais bon, comme on le disait tout à l'heure avec Coach Tollet, on assiste quand même à un championnat avec un nivellement par le bas. Donc je pense qu'il faut laisser jusqu'à la trêve pour voir si si l'embellie se confirme ou si c'est juste un feu de paille.
Ouais. Le coach, justement. Ouais. Deux équipes. Ouais, c'est deux. Aussi Bordeaux.
Ouais, c'est vrai que l'Ardennais, ils prennent les points. Moi, je vais surtout un Depréville là qui renaît de ses cendres.
Il a remis Depréville sur pied.
Ah non, mais clairement. Maintenant, voilà, comme l'a dit Hervé, il faut attendre un petit peu dans ce championnat qui est tellement, tellement serré. Mais Bordeaux est là. Bordeaux est quatrième. Dans ce championnat-là, pour le moment, tout est possible. Donc, pourquoi pas. Mais j'attends de voir quand même. J'attends la trêve hivernale pour juger un petit peu plus.
Et voir terminer sur le podium, dans le quatuor de tête, je sais pas. En effet, c'est prématuré. Mais ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas entendu ou vu Bordeaux à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis quand même que faut saluer le travail de Paulo Sousa, au moins sur ce début de saison, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Bordeaux sortir de l'amorosité. Alors voilà, avoir des petits paris comme le Coréen Wang Juyo qui fait un très bon début de saison, oui. Depréville qui a été remis sur pied, Otavio. Qui fait un super boulot au milieu, qui est enfin pleinement utilisé. Il a une belle charnière.
Koscielny,
c'est un super choix, Koscielny, pour remettre, donner de la confiance à tout le monde. Je suis content de voir Bordeaux. Au final, est-ce que c'est pas ça la dynamique qui pêchait à Bordeaux, cette espèce de morosité qui faisait qu'il n'y avait pas d'emballement collectif, il n'y avait pas d'emballement émotionnel, j'ai l'impression, dans le vestiaire. Hein. Même médiatique, et peut-être qu'ils avaient besoin de ça aussi.
Mais ça a toujours existé, ça, Bordeaux. Hein.
Oui,
globalement. Si on regarde historiquement, souvent, tous les 3-4 saisons, ouais. Tu te retrouves avec une équipe capable de jouer le titre, voire les passes en Ligue des Champions. Et puis après, tu as des saisons où c'est un peu plus compliqué. Et puis on les voit, ils errent comme ça en Ligue 1. Ils terminent entre la 5e et 8e place. Et puis bon, voilà.
Ouais, par contre, c'est le TFC. Hein, ça, le TFC, défensivement, va falloir un petit peu se réveiller parce que c'est un peu compliqué. C'est une des pires défenses du championnat.
Ouais.
Et Koulouris, qui est une très bonne pioche, par contre, le grec, ça suffira pas. Hein. Faut quand même être plus solide derrière. Alors, la belle surprise l'année dernière avait été le japonais Genshoji, et pour l'instant, il est blessé. L'Uruguayen Rogel, il a du mal à se mettre en place. J'espère qu'ils vont se réveiller pour les Toulousains, parce que pour l'instant, défensivement, ça prend l'eau.
C'est compliqué.
Ouais, ça reste assez compliqué.
Il y a de l'eau dans le cassoulet.
Justement. Cette équipe bordelaise, c'est vrai que des fois on a tendance à regarder Alisson, Hervé. Non, ouais, on le regarde beaucoup, Alisson aussi, Hervé. Moi, je le regarde aussi, Simon. Il y a aussi le coach Tollet. Mais on a tendance à regarder ces cadors de la Ligue 1, Marseille, Lyon, le Paris Saint-Germain, Monaco, et on a un peu oublié les clubs tels que Bordeaux, Nantes.
Comme l'a dit coach Claude. Je t'appelle coach maintenant. C'est officiel. Non, mais Bordeaux a toujours eu cette aura. C'est la force tranquille.
On les a un peu perdus, Simon.
C'est la force tranquille.
Manière.
Oui, c'est les Girondins de Bordeaux.
Anonyme ces dernières saisons. Hein.
Ouais.
Je veux pas faire offense au public girondin.
Non,
mais c'est pas le club qui enflamme le plus la France médiatiquement. Donc voilà.
Il y a une époque où Chaban-Delmas
était 80, Claude Bèze,
mais c'est ça,
beau chaudron,
regarde,
quoi.
Marseille sombre, tout le monde va en parler. Bordeaux sombre, on va être embêté, ennuyé pour cette équipe qui est quand même un des plus gros palmarès du championnat français. Hein, 8 titres, c'est pas rien. Mais voilà, le fait est que quand Bordeaux sombre, Bordeaux sombre. Voilà.
Ouais. d'accord avec ça.
Non, non, mais il a tout dit. Non, c'est à l'image un petit peu de l'environnement aussi bordelais,
c'est l'identité du club.
C'est vrai que quand Bordeaux joue les places pour le titre, etc., pour la Ligue des Champions, on a eu de belles équipes avec Boop, avec Blanc, notamment avec
Ricardo juste avant Blanc.
Ricardo aussi, c'était assez solide. Après voilà, enfin hein, je veux dire, c'est vrai que bon, voilà, enfin on voit ce stade qui est à moitié vide. Enfin moi c'est triste.
Ils ont un nouveau stade en plus.
Ouais, mais rappelle-toi, Chabot Delmas, le stade n'est pas plein, sauf lors des rencontres contre Saint-Étienne, contre Marseille, contre peut-être Toulouse, lors des chocs.
L'ambiance là, c'est quand même assez feutré.
Le stade est trop grand peut-être pour l'atmosphère bordelaise.
Ça c'est le mal de beaucoup de clubs, de vouloir se construire des arènes qui peuvent accueillir des concerts parce qu'il y a un enjeu économique au niveau de la collectivité. Territoriale, ok, mais après remplir ton stade face à Dijon, Amiens, et j'ai rien contre Dijon et Amiens, mais voilà, c'est, tu remplis pas ton stade face à ces clubs-là.
Mais le stade était quand même d'une certaine manière assez rempli quand Bordeaux connaissait les trois premières places du championnat de France.
Brésil,
c'était pas la même équipe, enfin je veux dire, c'est difficile de t'enflammer quand t'as, je sais pas, l'équipe que Bordeaux a eu ces dernières saisons.
Bordeaux, c'est un peu l'image du public français, t'as le sentiment, c'est un peu l'image du public français, c'est-à-dire que lorsque t'as de bonnes saisons, tu te retrouves, alors surtout à Chabon-Delmas, on a connu le stade avec 30.
Les supporters dans les stades français, ils sont un peu comme ça, à l'image de son peuple.
Ils sont un petit peu comme ça, en majeure partie, c'est ça.
En majeure partie, du côté de Marseille aussi.
Non, pas du côté de Marseille, ni à Saint-Étienne, ni à Nantes, ni à Lens, ni au Parc des Princes.
Là, je vais lui répondre à Hervé, parce que Hervé, il essaye un peu de me taquiner. Moi, je te dirais que oui. Comparé aux autres saisons, le stade de Marseille, pour ma part, il n'est pas assez rempli. Même si on a changé quand même le contexte et aussi l'architecture de ce fameux Orange Vélodrome, avant il était beaucoup plus plein que maintenant. Et les copes ont aussi été remplis à gogo.
Ça dépend de ta culture du sport en termes de spectacle.
Ouais.
Regarde les Américains, la MLS, le football aux États-Unis n'est pas le sport roi. Mais la MLS bat des records d'affluence dans les stades. Hein. Les moyennes d'affluence des stades de MLS, qui maintenant ont des gros stades, sont largement au-dessus de ceux de la Ligue 1.
Et justement, ce soir, on apprend le décès du journaliste Gene Saccomanno, l'une des plus grandes voix du journalisme sportif, avec des rendez-vous cultes. Quand même, il faut le rappeler, le match du lundi chez nos confrères d'Europe 1. On refait le match, magnifique émission chez nos confrères d'RTL. Il était tout de même journaliste avant tout depuis ses débuts au Provençal. Tu vois, on parle encore de Marseille, du côté de Nîmes. Et comme pigiste aussi, puis à Marseille, correspondant pour Europe 1. Écrivain, déjà, avec Bandit à Marseille, sorti en 1959, qui deviendra, tu vois Simon, le film Borsalino sur grand écran en 1970, avec un duo d'enfer formé par Bébel, Jean-Paul Belmondo et aussi Alain Delon. Eh bien, cette émission, on lui dédie à ce grand monsieur qui est Eugène Saccomanno. On se retrouve demain à partir de 19h.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.